Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, continuons sur la lancée des sujets préparant les Diwa à l'édition 2013 de la fête de la transhumance. J'ai le plaisir d'avoir une conversation téléphonique avec monsieur Patrick Fabre de la maison de la transhumance de Salon en Provence qui vient tenir un stand et faire un peu de communication sur leur activité lors de ces transhumances qui s'approchent. Monsieur Fabre, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous ai taillé un portrait à la serpe assez rapide. Est-ce que vous voudriez nous présenter quelle est la vocation de la maison de la transhumance ?
Nous sommes une association qui date maintenant depuis 1997 et qui rassemble à la fois, bien sûr, des éleveurs et des bergers, puisque quand on parle de transhumance, ce sont d'abord eux les premiers concernés, mais également des acteurs de la culture et de l'environnement, avec l'idée toute simple de valoriser la transhumance dans toutes ses dimensions économiques, culturelles, environnementales, en travaillant à son avenir. Voilà, donc c'est une belle et généreuse idée qui maintenant date depuis un peu plus de 15 ans.
Et cette belle idée est toujours d'actualité ?
Bien sûr, puisque la transhumance a plusieurs siècles et même millénaires derrière elle, mais il faut sans doute encore plus aujourd'hui être attentif aux difficultés qu'elle rencontre, puisque elles sont nombreuses et il faut rassembler toutes les bonnes énergies, toutes les bonnes synergies pour travailler ensemble à son avenir. Donc c'est d'actualité et ça le sera encore dans les années qui viennent, bien sûr.
Alors vous êtes un centre de ressources pour tout ce qui concerne la transhumance, mais alors quel type de ressources, pour quel public en fait ? Qui s'intéresse à la transhumance de nos jours ?
De plus en plus de monde, puisque c'est vrai que certaines valeurs de rapport au territoire, de circuits courts ou de développement durable sont aujourd'hui d'actualité. C'est vrai que depuis une quinzaine d'années, on voit que de plus en plus de gens s'intéressent à nos travaux, qui se développent par ailleurs, bien sûr. Et effectivement, nous rassemblons depuis une quinzaine d'années un certain nombre de fonds, que ce soit des archives, des ouvrages, des photos, bien sûr, ou de la filmographie, pour les proposer ici au domaine du Merle, école de bergers historique dans la Croix, pour les proposer donc à la fois au grand public, aux chercheurs ou aux éleveurs et bergers. Donc ce centre n'est pas encore tout à fait ouvert, il le sera d'ici une année, ici au domaine du Merle.
Ah, il y a quelque chose que j'ai sans doute mal compris, vous me dites qu'il est ouvert depuis 15 ans, mais il n'est pas encore ouvert au public, c'est ça ?
Disons que l'association existe depuis 15 ans, mais le centre de ressources, lui, n'est pas encore mis en place, donc il le sera d'ici une année. Mais l'association est active depuis 15 ans, effectivement. Et nous sommes ici au domaine de Merle depuis une année et nous y développer, mais pour l'instant nous sommes encore au début de la maison de la transhumance.
Alors je n'y connais pas tant que ça en matière de pastoralisme et de transhumance, donc vous me dites que c'est une école historique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est-à-dire qu'il y a depuis toujours, il y a des bergers là-bas et puis des moutons et les bergers apprennent à circonscrire les moutons.
Donc l'école du Merle est aujourd'hui la plus ancienne des écoles de bergers de France, puisque celle de Rambouillet n'existe plus depuis 20-25 années, et cette école existe depuis les années 1930. Elle est issue d'un legs du domaine, et aujourd'hui elle forme donc une vingtaine de bergers salariés transhumants chaque année. Voilà, donc c'est la plus ancienne, et j'employais le terme d'historique parce que le domaine du Merle est également le lieu où a été créée et façonnée la race Mérinos d'Arles, qui est la race principale de la transhumance dans nos territoires entre la Provence et les Alpes. Donc il y a aussi un aspect lié à l'histoire du mouton Mérinos d'Arles ici dans la plaine de la Croix et le pays d'Arles.
Alors vous qui êtes passionné de transhumance, je suppose, quel regard portez-vous sur la transhumance en ce moment ? Est-ce que la transhumance a de l'avenir ? Peut-on attendre ?
On le pense, on le souhaite, on l'espère aussi. C'est pour ça qu'on essaie de développer ce projet. Elle a de l'avenir parce qu'elle, je le disais tout à l'heure, elle tient en elle-même pas mal de valeurs qui sont quand même intéressantes par rapport à l'époque que l'on vit, de valorisation de produits de proximité, d'entretien de territoire de la plaine à la montagne, d'emploi également, puisque c'est quand même même une filière économique intéressante. Hein. Il y a à peu près 600 000 brebis quand même qui transhument sur la région. Enfin, là où les régions plutôt, puisque il y a à la fois la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais Rhône-Alpes, bien sûr, avec notamment la Drôme et l'Isère. Mais c'est loin d'être moribond, la transhumance, même si aujourd'hui, pour la plupart du temps, elle est pratiquée en camion. C'est une activité économique d'importance qui recèle beaucoup de valeurs, qui intéresse de plus en plus notre société et nos élus. Et c'est quand même plutôt rassurant. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de la défendre, de la valoriser, de la redévelopper, mais il faut aller vite parce que c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes, bien sûr, de génération d'éleveurs, de trouver des bergers, donc c'est quand même de plus en plus difficile d'exercer ce métier pour toutes sortes de raisons, donc il faut vraiment les valoriser au mieux.
Vous dites qu'il y aurait une crise de vocation en matière de berger en ce moment.
C'est plutôt une crise de vocation au niveau des éleveurs, donc les propriétaires des troupeaux, parce que c'est vrai que les conditions de l'élevage aujourd'hui sont compliquées, avec beaucoup de contraintes administratives, sanitaires, la difficulté de trouver des terres, alors ça concerne surtout nos territoires de la Basse-Provence, hein, mais acheter des terres ici en Pays d'Arles pour élever des moutons, c'est presque une folie. Donc, et puis les terres disparaissent, il y a beaucoup d'urbanisation, d'industrialisation, etc. Donc la difficulté, c'est plus de trouver un mode qui permette finalement aux éleveurs de se pérenniser, parce que tout est trop cher au niveau de l'achat des terres, de la location des terres, de l'achat des aliments. Donc c'est plutôt des difficultés de cet ordre-là. Après, si on parle des bergers salariés, là par contre, c'est plutôt l'inverse, hein, puisque au niveau des vocations, s'il y a une vingtaine d'années, on avait 15 candidats pour 15 places, maintenant on a plutôt 40 ou 50 candidats pour toujours 15 places. Donc il y a beaucoup de gens, notamment des jeunes et notamment des jeunes femmes, qui s'intéressent au métier de bergère en l'occurrence, et ça c'est plutôt rassurant. Et tous les bergers qui font la formation ici au Merle sont employés immédiatement, ils restent dans le métier. Donc il y a quand même des choses positives, mais c'est vrai que malheureusement tout n'est pas si simple, notamment dans nos territoires ici dans le sud de la Provence où il y a beaucoup d'autres enjeux que les simples enjeux pastoraux, si je puis dire.
Je vais revenir un petit peu en avant sur la transhumance en camion versus la transhumance à pied. Vous qui devez y connaître, je m'adresse à vous en tant que quelqu'un qui a sans doute une culture en la matière. Ça pouvait prendre combien de temps, il fut une époque, pour transhumer en fait? Combien de temps il marchait le troupeau et le berger?
Le troupeau mettait plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Ça dépend bien sûr où il se rendait et d'où il partait, mais pour des troupeaux qui partaient de Croix et de Camargue et qui allaient par exemple sur les hauts plateaux du Vercors, il fallait 7 à 8 jours de marche. Hein, donc, par contre, certains allaient jusqu'en Savoie, hein, dans la Maurienne par exemple, et là il fallait quasiment un mois. Hein, donc ça allait de une semaine à un mois, en fait, la marche des troupeaux vers les alpages.
Je suppose que ça avait des conséquences un petit peu pratiques, non seulement sur les moutons, mais sur tout le cycle économique, parce que immobiliser un troupeau qui transhume pendant un mois, je ne sais pas si ça maigrit les moutons quand ça marche comme ça, parce qu'ils n'ont pas le temps de manger en marchant ou...
Oui, un petit peu quand même. C'est vrai que c'était quand même une épreuve de marcher à la fois au printemps et puis à l'automne pour redescendre des alpages. Donc on présente ça de manière souvent enjolivée, je dirais presque même romantisée. Mais c'est vrai que c'était quand même une épreuve et pour les hommes et les bêtes et les troupeaux parfois quand ils arrivaient en montagne, il fallait vite trouver de l'herbe neuve parce que un mois de marche c'est quand même une longue route. Hein. Et après à l'automne, quand ils redescendaient à pied, il pouvait y avoir parfois quelques agneaux qui naissaient en cours de route. La météo à l'automne est souvent plus capricieuse, donc effectivement c'était quand même pas si simple que ça de marcher à pied sur de si longues journées. Maintenant, il y avait quand même l'avantage de pouvoir adapter les brebis à l'altitude de manière plus cohérente qu'aujourd'hui, où on part en camion le matin, il peut faire 30 degrés quand on les charge en gros ici, et quand on arrive en montagne, il peut neiger, donc il faut faire attention à ça. C'est vrai qu'il y a moins d'adaptation, évidemment, progressive à l'altitude que lors de la marche à pied vers les alpages.
Mais alors, à part ça, si on devait comparer les avantages et inconvénients de la transhumance à pied et de la transhumance en camion, vous pourriez faire un petit bilan comparatif?
Après, il y a évidemment d'autres inconvénients par rapport au camion, c'est que ça a un coût, bien sûr, de plus en plus élevé avec le coût du pétrole, hein, bien sûr. Et puis il y a de moins en moins de transporteurs, parce que là aussi c'est un métier qui est soumis à de grosses contraintes. Donc il y a le coût du transport, hein, bien sûr. Mais la transhumance à pied aussi permettait de trouver de l'herbe. Hein, donc pendant un mois, pour ceux qui se débrouillaient bien, ils pouvaient trouver quasiment de l'herbe gratuite, hein, sur le mois de route. Donc ça c'était quand même intéressant. Après, tout cela était quand même une organisation très complexe, hein, qui a évolué au cours des siècles, où il y avait des hommes capables d'encadrer les brebis, hein, vers les montagnes, où il y avait de l'herbe que l'on réservait d'une année sur l'autre, des endroits, auberges où on pouvait dormir. Enfin, c'était une organisation assez considérable qui a vraiment marqué l'histoire de la Provence dans ses relations au territoire et aux hommes, hein, puisque beaucoup d'éleveurs et de bergers étaient finalement originaires des Alpes, et notamment de la Drôme, par exemple.
Donc justement, ça ne se pratique plus, hein, la transhumance à pied de nos jours, à part quelques olibrius.
Se pratique encore sur plusieurs journées. Hein, quand on parle de plusieurs journées de marche, il y a des troupeaux du Haut du Var, hein, département du Var, ou des Alpes-Maritimes, qui montent encore à pied vers les alpages, hein, en passant par l'arrière-pays, et des routes sans doute moins dangereuses, moins fréquentées. Donc on estime qu'il y a à peu près 20 à 25 000 brebis, hein, qui transhument encore sur au moins une semaine vers les Alpes. Moi, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de faire une transhumance de 7 jours, hein, entre le Haut-Var et puis Saint-André-les-Alpes. Bon, ça reste quand même quelque chose de très enthousiasmant. Voilà. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de circulation sur les routes, bien sûr. À cette époque, il faut marcher le matin tôt, le soir tard. Il faut avoir un véhicule devant, un véhicule derrière, des gilets fluorescents. Enfin, tout cela est très codifié, bien sûr. Et ça devient de plus en plus compliqué, parce que il y a de plus en plus de circulation. Donc, les éleveurs, effectivement, qui continuent à maintenir cette pratique, sont plus très nombreux.
Vous avez employé le terme d'enthousiasmant. Qu'y avait-il d'enthousiasmant dans cette transhumance pour vous, hein, ce petit ressenti?
Pour nous, les bergers et les bêtes, parce que c'est quelque part une libération. Enfin, on part de la plaine, on va vers la montagne, on va vers l'herbe neuve, on va vers les beaux jours, puisqu'on est au mois de juin. Donc, après, évidemment, il faut que le temps s'y prête, hein, parce que si on a une semaine de pluie, c'est autre chose, bien sûr. Mais il y a quand même, surtout au printemps, une forme de libération, comme ça, d'aller vers ces grands espaces alpins et retrouver l'herbe et des grandes journées alpines. Donc, que ça soit les brebis, qui sont en général très excitées, parce qu'elles le savent, hein, quand elles voient les préparatifs qu'on va pas tarder à partir, ou que ça soit les éleveurs et les bergers, tout le monde finalement attend cela comme une forme de libération. Surtout les années où il fait très chaud en plaine, où il y a presque plus d'herbe, ce qui n'est pas le cas bien sûr de cette année 2013, mais quand il n'y a plus d'herbe et qu'il fait très chaud, tout le monde attend qu'une chose, c'est de partir vers les Alpes, et du coup le convoi s'engage avec une sorte de frénésie assez joyeuse finalement.
Alors, cette maison de la transhumance et ses travaux de conservation, de médias, d'ouvrages, de références en matière de transhumance, est-ce que c'est pas une maison qui baigne dans la nostalgie d'un âge d'or révolu quand même?
Non, pas du tout, non. Non, c'est pour ça que je vous disais que la transhumance était souvent montrée de manière romantique, hein. Et c'est vrai qu'un certain nombre de personnes veulent voir cela. Nous, on n'est pas du tout dans cet esprit-là, puisqu'on travaille pas du tout sur le retour de la transhumance à pied, ou bien au contraire. Nous, on est là pour communiquer sur les différentes valeurs que porte la transhumance d'aujourd'hui, avec également le transhumance en camion, avec l'utilisation d'hélicoptères pour emmener le sel en alpage, avec l'utilisation de solaire pour éclairer les cabanes des bergers, etc., avec ces jeunes femmes qui viennent exercer le métier, et les nouveaux produits que l'on propose aujourd'hui autour de la viande ou de la laine. Non, pas du tout. On n'est pas dans un esprit nostalgique. Ce que l'on fait, c'est que l'on s'appuie sur, bien sûr, l'histoire de la transhumance entre la Provence et les Alpes, qui a vraiment fondé nos civilisations, que ce soit ici en Provence ou en Méditerranée, de manière plus globale. Mais justement, pour dire, attention, vous avez là une pratique qui vient de loin, qui a construit notre identité, qui porte beaucoup de valeurs, et soyons attentifs tous ensemble à lui donner un avenir. Pas du tout dans un esprit nostalgique, mais au contraire, dans un esprit plutôt porté sur l'avenir de ces métiers-là. Et c'est pour ça qu'on travaille très souvent auprès des jeunes générations et pas tellement auprès des anciens, parce que ça, ils l'ont connu, la transhumance à pied. Et, effectivement, il y a des aspects plutôt nostalgiques dans ce regard-là. Mais nous, on travaille plutôt avec les jeunes générations, à avec des outils pédagogiques comme les malles pédagogiques, avec les sentiers d'interprétation ou autres éléments pour les sensibiliser, parce que c'est eux évidemment qui dans l'avenir devront assurer la pérennité de la transhumance. Donc on n'est pas non du tout dans un esprit nostalgique, on n'est pas non plus dans l'idée de créer un musée, hein. C'est vrai que parfois les éleveurs et les bergers nous disaient au tout début, c'est plus du tout le cas maintenant, c'est la fin pour nous, vous allez nous mettre au musée. Donc non, au contraire, hein, nous on est plutôt portés sur l'avenir dans une muséographie certes, mais qui sera sur l'aspect contemporain du métier et pas trop sur les aspects du passé qu'on développe de toute manière par ailleurs dans beaucoup d'autres endroits. Donc nous on est plutôt un lien, un outil de rencontre entre la société d'aujourd'hui et les bergers d'aujourd'hui et surtout de demain.
Bon, je crois que c'est la deuxième fois que je vous pose la question, mais moi ça m'interpelle quand même. Quel avenir pour la transhumance, alors à part le fait qu'effectivement on va accepter que ça soit de plus en plus en camion, etc. Mais c'est un phénomène qui ne va pas s'arrêter parce qu'il y aura toujours des alpages et des moutons qui seront en bas de la vallée, qu'il faudra les monter et les redescendre en fin de saison. C'est tout ce qu'on peut dire, mais c'est une pratique qui ne va pas s'arrêter, quoi, à votre avis.
L'avenir, il faut le créer aussi parce qu'il y a des endroits où effectivement, si vous avez une vallée alpine et puis un alpage au-dessus, on peut imaginer que le troupeau de la vallée alpine ira sur l'alpage au-dessus, mais il y a quand même une nécessité de valoriser les produits, parce que si on veut maintenir des éleveurs, il faut encore mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, qu'ils puissent vivre de leur métier, bien sûr, comme tout le monde. Et donc ça passe par une meilleure valorisation de la viande d'agneau, ça passe par une meilleure valorisation de notre laine qui aujourd'hui ne paye quasiment plus que la tonte. Ça passe par d'autres problèmes, hein, bien sûr, comme ceux de la prédation, par exemple, hein, puisque, par exemple, les hauts plateaux du Vercors, ils sont soumis depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc, il y a quand même le besoin de travailler ensemble sur ces questions-là. Ça ne va pas de soi qu'il y aura toujours des moutons et toujours de la transhumance. Que ça soit de la grande transhumance depuis les plaines de Provence, ou que ça soit de l'estive locale, comme on l'appelle, des vallées alpines, pour gagner les alpages au-dessus de leur exploitation. Après, il y a d'autres personnes, hein. Aujourd'hui, les alpages sont fréquentés par de nombreux acteurs. Les touristes, par exemple, moi j'en fais partie l'été également, hein, ou les acteurs liés à l'environnement, ou au monde forestier. Donc de temps en temps, on entend des choses, effectivement, qui font qu'on est inquiet sur l'avenir. Donc il y a quand même beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Ça ne va pas de soi que il y aura toujours des moutons et des alpages chez nous dans nos territoires. Sur d'autres territoires ailleurs en Europe ou en Méditerranée, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que c'est encore une exception française, si je ne m'abuse, grâce peut-être à la loi pastorale de 1972.
Oui, il y a eu cette loi qui a beaucoup bénéficié aux éleveurs et aux bergers, qui va être modernisée effectivement maintenant qu'on vient de fêter ses 40 ans. Mais sur d'autres territoires européens, en Italie ou en Espagne, l'organisation autour des éleveurs n'est pas du tout la même. Les outils, effectivement, comme la loi pastorale n'existe pas, et on arrive à certains territoires où les troupeaux vont être interdits pour des soucis environnementaux, ce qui est une aberration selon nous, bien sûr. Sans dire que le troupeau, c'est quelque chose de parfait non plus, bien sûr. Mais il peut arriver vite des aberrations d'interdiction si on ne prête pas attention à tout cela.
Comment vous financez votre maison de la transhumance? Parce que c'est bien gentil, c'est noble, vous faites un lieu de ressources concernant la transhumance, mais qui vous finance? Comment vous faites pour vivre, en fait?
On fait pas mal de prestations, de conférences, de rencontres, d'animations, de malles pédagogiques. Donc ça représente plus de la moitié de nos ressources, qui sont modestes, hein, parce que pour l'instant, on est une personne et demie, donc... On a beaucoup d'activités, mais en termes de personnel, nous restons modestes pour l'instant, et puis ça sera le cas, parce que nous sommes des gens qui sont rigoureux au niveau financier. Et après, on bénéficie, bien sûr, comme d'autres associations, de quelques aides du département, de la région, ou de programmes européens, comme le programme La Route, qui reliera Arles à l'Italie par les anciennes voies de transhumance. Voilà, mais on est très attentif à ne pas dépendre que de subventions. C'est loin d'être le cas puisque elles ne sont que minimes dans nos ressources actuelles.
Je sais que vous êtes présent donc au Transhumance de cette année à Die. Vous y tiendrez un stand. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la raison de votre participation à cette édition 2013 de la Transhumance ?
Alors la fête de la Transhumance de Die a toujours pour nous été un temps fort. Moi j'étais là à la première édition déjà, en 91. J'y suis revenu à de nombreuses occasions, y compris avec la Maison de la Transhumance, puisque on a déjà proposé des films, des rencontres ou autres à la fête de Die. Ça faisait quelques années, effectivement, que nous n'étions pas revenus. Nous le refaisons volontiers cette année, en présentant donc à la fois nos outils de communication et nos derniers ouvrages, mais également en présentant un programme que l'on mène actuellement, un programme européen, franco-italien, qui est de créer un itinéraire de randonnée par les anciennes voies de transhumance qu'on appelle les drails, ou les carrères, qui reliera Arles, donc jusque dans la vallée de la Stura, dans le Piémont italien. Et l'idée de ce sentier de randonnée, ça sera de permettre, au travers d'un itinéraire de plus de 400 kilomètres, de découvrir tous les aspects liés à la transhumance et au pastoralisme, qu'ils soient gastronomiques avec des menus, la route ou dans les lieux restauration, qu'ils soient culturels avec tout le réseau des musées écomisés qui va être concerné, au niveau des paysages que le GR permettra de traverser. Donc ça, c'est sans doute un de nos produits, si je puis dire, phares dans les années qui viennent, la mise en place de ce sentier de grande randonnée sur les traces des bergers entre la plaine de la Croix et l'Italie. Voilà, donc nous venons également à Die pour proposer aux gens qui viendront à la rencontre de la fête de prendre dans les années qui viennent la route pour découvrir tous ces éléments à la fois historiques par les voies de transhumance, mais surtout contemporains au travers des différentes activités pastorales des différents territoires concernés.
Donc on vous attend de pied ferme à Die pour cette édition 2013. Vous m'avez dit que la première fois que vous êtes venu à la fête de la transhumance de Die, c'était en 1991. Vous en avez donc vécu un certain nombre. Vous l'avez vu évoluer. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fête de la transhumance? Elle vous paraît joyeuse? Comment la qualifieriez-vous?
Alors la fête de Die a vraiment marqué les acteurs du pastoralisme comme moi, parce que c'est un lieu de rencontre et c'est vrai que, sans revenir au passé, mais à l'époque de l'association Drail et d'André Pitt, c'est vraiment la fête qui était la plus réussie à tout point de vue, et notamment culturelle, avec toute une semaine de programmation. Alors, ça fait quelques années que je n'y suis plus retourné, mais il y a de nouveau apparemment une dynamique autour de la fête pour la redévelopper avec la Fédération départementale ovine de la Drôme et également l'ADEME. Donc nous, on y revient volontiers, sachant qu'effectivement, c'est quelque part une fête qui a beaucoup marqué nos activités et dont on s'est pas mal inspiré ici en Provence par rapport aux fêtes qui existent. Donc on y vient avec un enthousiasme nouveau pour essayer peut-être de redynamiser au travers de différentes occasions la fête actuelle. Mais comme je vous le dis, ça fait 3 ans que je ne suis plus venu, donc je vais un peu la redécouvrir dans sa forme actuelle.
Très bien, bah écoutez, on va espérer que le meilleur se passe, il n'y a pas de raison, hein. Le pire n'est pas le plus sûr, disaient certaines personnes bien intentionnées.
Nous espérons bien sûr que la météo nous aide, parce que ça fait partie des choses à prendre en compte, mais c'est sûr qu'on espère qu'on aura quand même des belles journées d'alpage, parce que jusqu'à présent, les fêtes de Provence ont pour la plupart été gâchées par le printemps pluvieux, mais ça fait partie du métier de berger transhumance de s'adapter.
Ah bah on est bien obligé, hein. C'est oui. Tellement facile d'aller bien quand tout va bien. Voilà. Très bien, mais monsieur Fabre, nous verrons sans doute le samedi 22 et dimanche 23. Vous serez aussi au col de Rousset avec votre stand ?
Oui, le samedi on sera à Die, et puis le dimanche au col du Rousset avec notre stand, effectivement, hein, que nous tiendrons avec la librairie de Die Mosaïque.
Oui, et puis avant de se quitter, je me permets de signaler qu'il y a un très beau site internet, la Maison de la Transhumance. C'est vraiment très facile de le trouver. C'est www.transhumance.org. C'est difficile de se tromper. Et vous y trouverez dans ce site une mine de renseignements sur la transhumance. Il y a un peu de tout. Il y a des vidéos, il y a une description des activités de l'association, il y a des ressources sur certains parcours dans la montagne. Bref, ne vous privez pas. www.transhumance.org. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à se dire à samedi 22 et dimanche 23, vous serez vraisemblablement derrière votre stand de la Maison de la Transhumance de Salon de Provence. Monsieur Fabre, merci.
Merci à vous.
Et puis je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.
Interview. Terre View. Okay, the bird. L'interview du jour. L'interview du jour.